Certains, ici, ont vécu la première partie de mon message sur le psaume 23. D'autres, la seconde partie, mais beaucoup moins, puisque une grande partie de l'Église était en déplacement à Bordeaux pour un certain mariage. Donc, pour certains, ben, vous avez raté la seconde partie. Voilà. Ça vous apprendra. Je ne vais pas reprendre le second message complètement, juste vous dire quel était le thème pour que vous ne soyez pas perdus quand même. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir le troisième volet du psaume 23. J'ai pris quelques versets qui m'ont semblé, qui m'ont parlé, moi personnellement. Et donc, c'est ces versets-là que je veux vous partager donc ce matin. Alors, nous abandonnons tous nos attirails de la vie moderne et nous allons nous replacer dans le contexte du psaume 23. Alors, vous êtes des brebis, il y a des verts pâturages et il y a un berger. N'est-ce pas ? La première partie des messages concernait donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous avons développé quatre incontournables pour que la brebis puisse se reposer correctement. Souvenez-vous, elle devait être libérée de toute crainte, de ne pas avoir de différend avec ses congénères, être débarrassée des parasites et des insectes, et surtout être rassasiée. Évidemment, on n'a fait plus beaucoup d'applications. On est des brebis sans être des brebis. Et ces applications-là, bien entendu, nous sont allées droit au cœur. Est-ce que, vraiment, vous êtes en repos ce matin, sous la houlette du Seigneur ? Est-ce que ces quatre incontournables, vous les vivez dans votre vie ? Est-ce que vous êtes libérés de toute crainte ? Comme nous a lu Johan, ce verset qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Est-ce que vraiment toute crainte vous abandonne parce que vous êtes sous l'autorité de votre divin berger ? Est-ce que vous n'avez pas de différends les uns avec les autres ? Et si vous en avez, est-ce que vous vous demandez pardon les uns les autres, justement pour conserver l'unité de l'esprit ? Est-ce que vous êtes débarrassé de tous vos parasites et insectes qui pourraient parasiter votre vie spirituelle, quelques petits ou grands péchés ? Qu'on a besoin de confesser à notre Seigneur, justement. Et est-ce que vous êtes rassasié de la parole de Dieu pour pouvoir être en repos au pied du Seigneur ? Voilà un petit peu le premier message que nous avons développé sur le psaume 23. Mais rapidement. Hein. Le second s'adressait à nous par ce verset 4 qui nous disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, « Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. » Et on a vu que tout chrétien est en chemin. On ne se contente pas, en tout cas, Dieu ne se contente pas pour nous de nous laisser dans la vallée, douillette, certes, mais manquant d'herbes fraîches en été. Et il veut que nous grimpions vers les cimes pour trouver des verts pâturages, même en été. Évidemment, les applications étaient évidentes pour nous. Le Seigneur veut nous sanctifier, et chaque jour de notre vie, nous allons avancer avec lui, sous sa houlette. Il va nous mener vers ces verts pâturages des cimes, et jour après jour, nous allons croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là ce que veut le Seigneur pour nous. Il ne veut pas que nous restions sur une connaissance, on va dire, basique de Dieu, mais il veut que nous le connaissions profondément. Et c'est lui qui va se charger de nous mener dans ce chemin. Ça, c'était le second message. Rapide, hein, je vous le dis. Le troisième message aujourd'hui, donc, nous allons prendre la seconde partie du verset 4. « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Waouh ! C'est tout un programme. De nos jours, avec les progrès techniques, la vie du berger, on va dire, est grandement simplifiée par rapport à avant. On en a déjà parlé, mais en effet, les moyens de transport mécaniques, les déplacements et l'acheminement du matériel et des provisions sont possibles pratiquement sur n'importe quel terrain aujourd'hui. Mais, il y a encore quelques années seulement, le berger n'était muni que d'un bâton et d'une houlette pour veiller sur son troupeau. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand on regarde bien. Et évidemment, du temps de David, ces deux ustensiles étaient les seules armes et outils que possédaient les bergers du Moyen-Orient. Et c'était vrai également pour David. Il est vrai que, en tant que néophyte, je ne connaissais rien du tout à la vie pastorale. Je l'ai déjà dit, donc je le répète. Comme ça, au moins, vous saurez que je ne suis pas un berger dans l'âme. Et la panoplie du berger moyen, je ne connaissais pas. Je me laissais influencer, certainement comme vous, par des images un peu stéréotypées des bergers de cinéma. Un homme, un djellaba en général, avec un bâton recourbé et une besace à la bandoulière. Voilà un petit peu comment on se représente le berger du Moyen-Orient ou le berger des temps anciens. L'image est certainement très idyllique, mais la vie du berger, on l'a déjà dit, est autrement difficile et dangereuse que cela. Et l'image qu'on se fait est un peu fausse. D'accord ? L'un des deux premiers messages consacrés au psaume 23, nous avons étudié le rôle du berger envers son troupeau. Nous avons développé son rôle de protecteur, de guide, de médecin, même le cas échéant. Tout le monde connaît l'instrument principal du berger, je pense. Et ça fait partie un petit peu de l'image qu'on voit un petit peu partout. La houlette. Hein ? Mais pourquoi un second bâton ? Puisqu'il nous est dit dans ce verset, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que la houlette n'est pas un bâton ? Il me semblait bien, moi, dans mes connaissances très approfondies, que la houlette est un bâton. Certes, avec une forme un peu spéciale, mais un bâton quand même. Car pour moi, la houlette est donc un bâton. Alors, quelle est la différence entre le bâton et la houlette ? Puisque le verset s'appesantit largement sur ces deux mots, ton bâton et ta houlette. Je me rassure. En fait, la différence, vous allez le voir, est de taille. Et elle va très bien illustrer le rôle du bon berger, qui est Jésus, évidemment, envers ses brebis, c'est-à-dire nous. N'oubliez pas, nous sommes des brebis, un peu stupides. Oui, très stupides certaines fois, même. Têtus. Et on a besoin vraiment d'un bon berger avec un bon bâton. Vous voyez pourquoi maintenant il y a deux bâtons. Alors le bâton de berger. J'attendais ça. J'ai dit ça, ils vont me le faire. Le bâton de berger qui ne se mange pas. Ouais. Ben, celui-là, il ne se mange pas. Et c'est pas Justin Bridoux qui l'a fait. Et vous allez voir que le bâton du berger est un ustensile très très personnel. Il ne se prête pas, le bâton. Il est fait sur mesure. Chaque berger, dès le moment où il est en charge d'un troupeau, relativement jeune d'ailleurs, puisqu'on a vu que David était très jeune quand il gardait les troupeaux de son père. Donc, dès qu'ils sont en charge d'un troupeau, le berger va chercher un arbuste autour de lui qu'il va déterrer pour s'en faire un bâton. Je parle du bâton, pas de la houlette, là. On est bien d'accord. Il va le modeler en fonction de sa taille et de sa force. Alors, il y a des bergers qui auront des gros bâtons, des bergers qui auront des bâtons plus petits, selon la taille qu'ils ont. Il va le tailler et le sculpter avec soin et patience, jusqu'à obtenir une arme redoutable, dont la base élargie va prendre une forme arrondie, en quelque sorte, comme un genre de massue. Il va ensuite s'exercer pendant des heures à son maniement jusqu'à ce que son bâton devienne l'extension de son propre bras. Vous ne le saviez pas, mais le berger du Moyen-Orient a une formation de ninja. Un peu, mais si. Et vous allez voir que c'est très utile, n'est-ce pas? Alors, dans mon esprit, le bâton a toujours été synonyme de punition. Je ne sais pas pour vous, moi, quand on me parlait de bâton quand j'avais 5 ans, j'allais me cacher quelque part. Ben, un peu dans les proverbes, c'est un petit peu la même histoire. Hein. On parle beaucoup de verges dans les problèmes. Hein. Souvenez-vous, dans Proverbe 22,15, la folie est attachée au cœur de l'enfant, et la verge, ou le bâton, hein, de la correction l'éloignera de lui. Dans Proverbe 23,13, il nous est dit « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Ben, ça dépend comment on frappe. Hein. On n'est pas là pour faire de la maltraitance, on est bien d'accord. Proverbe 29,15, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Alors, bon Dieu, je suppose que beaucoup ont dû goûter au martinet ou au bâton, ici peut-être. Ce n'est pas agréable, mais si la parole de Dieu leur donne un réel intérêt, c'est qu'il y a réellement un intérêt à la correction. Et le bâton de berger, le bâton du berger, on va dire, pour ne pas créer de polémique, le bâton du berger a quant à lui 4 avantages et 4 utilités qu'on va détailler. Alors en premier, c'est une arme qui incarne la puissance et l'autorité. Le berger a l'autorité sur son troupeau. C'est vrai. Alors il permet au berger d'exercer un réel contrôle sur son troupeau en toutes circonstances. Vous vous souvenez de Pharaon avec son bâton ? C'était un symbole d'autorité sur toute l'Égypte. Et bien, c'était le même principe pour le berger. Le Pharaon était le berger de l'Égypte. Le berger a aussi son bâton qui lui confère l'autorité sur son troupeau. Alors les brebis sont rassurées car elles savent que celui qui porte le bâton peut les protéger efficacement de tous les dangers et agressions. C'est vrai, ta houlette et ton bâton me rassurent. La brebis a besoin d'être rassurée, souvenez-vous, hein. Elle est peureuse. On l'a dit, ça fait... Mais je le répète, elle est peureuse, elle est stupide, etc., etc. Et on a besoin d'avoir un signe d'autorité au-dessus de nous. Alors, quand Moïse fut envoyé par Dieu pour délivrer son peuple, par exemple, et le faire sortir d'Égypte, c'est par sa verge qu'il devait montrer la puissance dont Dieu l'avait investi. C'est aussi au moyen de la verge de Moïse que les miracles se réalisèrent pour convaincre Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu, mais aussi pour rassurer les Israélites. Moïse, par la verge, montrait à Pharaon quelle devait être sa volonté, la volonté de Dieu. Pour nous, le bâton peut être comparé, devinez à quoi ? Qu'est-ce qui a autorité sur nous ? La parole de Dieu. Bravo ! Le bâton peut être comparé à la parole de Dieu qui nous fait connaître le plan de Dieu, sa volonté et son autorité dans nos vies. Elle est son bâton et l'extension de sa pensée et de sa volonté à notre égard. Combien il est rassurant pour nous, les enfants de Dieu, de pouvoir connaître la pensée de Dieu, son plan et sa volonté pour nous. Quel réconfort d'avoir cet instrument sûr et puissant pour nous guider. Ton bâton me rassure, ta parole de Dieu, la parole de Dieu nous rassure. Et combien il est important de pouvoir nous en nourrir, de pouvoir nous plonger dans l'étude de la parole. Parce que c'est là notre bâton, celui qui peut nous rassurer, c'est la parole de Dieu. Souvenez-vous que la parole de Dieu a été incarnée en Jésus-Christ. Tout est fait pour nous ramener vers Jésus-Christ. Secondement, se rapprochant, je dirais, plus de l'image que l'on se fait du bâton, celui-ci est aussi un instrument de discipline. Quand, dans un troupeau, c'est d'ailleurs son utilité principale. D'accord ? Nous nous sommes déjà bien appesantis sur le caractère de la brebis. Lors de notre premier message, nous comprenons bien pourquoi le bâton doit être souvent employé pour exercer la discipline envers les brebis récalcitrantes qui s'éloigne du troupeau dangereusement, qui s'approche peut-être un peu trop des précipices, etc. Le bâton lancé avec dextérité, cette fois par le berger, ramènera la brebis égarée et stupide, ne voyant pas l'imminence du danger. Qu'est-ce qui nous arrive certaines fois, souvent même je dirais, de nous engager sur des voies où on ne voit pas de danger, alors que le danger est bien réel, parce que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez certaines fois. Et le Seigneur est obligé de nous ramener. Et certaines fois, on prend quelques coups de bâton de la part du Seigneur, effectivement. Et si on se laisse faire, on revient dans le bon chemin. Et on remercie le Seigneur de nous avoir donné quelques coups de bâton à ce moment-là. Parce qu'on se rend compte à ce moment, justement parce que la parole de Dieu nous parle certaines fois, et nous dit « attention, ne marche pas sur ce chemin », combien nous avions tort d'aller par là, alors que le Seigneur nous disait de ne pas y aller. Oh, mais on est souvent comme ça, on fait beaucoup de compromis, on dit « oh, mais c'est pas si grave, c'est pas si dangereux ». Mais quand on met ça, après c'est le bras, et puis tout le reste. Donc attention. Et le Seigneur est là pour nous corriger, nous donner quelques coups de bâton, un petit peu comme l'enfant qui doit être redressé. Et il le fait avec tant d'amour. Mais c'est quand même des coups de bâton. Ben oui, ça fait mal un petit peu. Le bâton est souvent destiné à ça. Donc évidemment, l'application est évidente pour nous. La parole de Dieu, quand nous la lisons, nous sonde profondément, nous éprouve, nous montre la voie à suivre. Si nous nous égarons, elle nous reprend et met en évidence notre péché et notre égarement. Elle est utilisée par Dieu pour nous ramener dans le bon chemin. Nous pouvons lire dans Josué 18 que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est presque écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre ne s'éloigne point de toi, ni de ta bouche. Combien il est important de pouvoir se plonger dans la parole de Dieu. Le but de notre berger est de nous faire réussir, et non pas de nous condamner. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous frappe certaines fois qu'il ne nous aime pas. En tant que parents, souvent ici, on peut éventuellement avoir à donner une fessée à notre enfant. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. C'est parce que justement, on veut le redresser pour qu'il suive des voies droites. Il utilise donc son bâton pour notre bien. Amen. Vous êtes prêts à recevoir les coups de bâton du Seigneur? Non, parce que je vous mets à l'aise de suite. Hein. Tôt ou tard, vous allez en recevoir. Parce qu'il n'y a personne ici qui ne se trompe pas, d'une manière ou d'une autre. Donc soyez rassurés, on en est tous au même point. C'est comme ça, nous sommes un peuple un petit peu comme les Israélites au Coured, et on a besoin certaines fois de la correction du Seigneur. Mais il le donne, comme je l'ai dit, avec tant d'amour, et ça nous fait tellement de bien, une fois qu'on a reçu la correction, d'être dans le bon chemin à nouveau. Le bâton est aussi utilisé par le berger pour examiner et compter ses brebis. Ça m'a intéressé, ça. Souvenez-vous que j'ai pris un petit peu toutes ces idées du bouquin « Un berger médite le psaume 23 ». J'ai rien inventé parce que je ne suis pas berger. Mais c'est des idées et c'est très intéressant puisque dans ce livre, l'auteur voit vraiment le psaume 23 du côté du berger. Avec toute sa connaissance du monde pastoral. Et donc ce bâton est utilisé effectivement par le berger pour examiner et compter les brebis. Quand les moutons sont dans l'enclos de temps en temps, chaque animal subit un examen complet. C'est aussi une occasion pour le berger attentif de déceler un problème qu'il n'aurait pas remarqué auparavant. Alors il fait sortir un par un chaque animal de l'enclos, il l'arrête avec son bâton, sans le frapper, hein, le temps de l'examiner avec soin. Pour déceler la moindre anomalie. Il ne néglige aucun détail. Il sait que tout problème peut prendre des proportions inquiétantes s'il le laisse passer. Dans Ézéchiel 20, 37, on peut lire « Je vous ferai passer sous la verge ». Et dans le psaume 139, on peut lire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous ne devons pas craindre l'examen minutieux de Dieu, car il nous le fait subir pour notre bien également. Il est vrai que souvent, nous donnons une bonne image de nous-mêmes, en tout cas superficiellement. Dans l'Église, on aime bien être bien habillé le dimanche, avoir de bonnes pensées, de bonnes paroles, n'est-ce pas ? Et ça, c'est tout à fait bien, et c'est normal. Mais quand Dieu nous regarde sous notre laine, en quelque sorte, de brebis, vous savez que la laine, dans la Bible, représente l'égoïsme et la volonté propre. C'est une image comme une autre. Donc quand l'Éternel nous regarde plus profondément sous notre laine, eh bien, il fait apparaître certainement ce qui doit être changé en nous, parce qu'il y a des choses qui doivent changer en nous. C'est pour ça, comme on l'a vu lors du second message, on est en cheminement avec le Seigneur. Et le Seigneur, au fur et à mesure qu'il nous fait cheminer vers les hautes cimes, nous change et nous fait ressembler de plus en plus à l'image de son Fils. Enfin, le bâton est une arme de protection en cas de danger. Là aussi, on connaît l'histoire. Le berger se sert de son bâton pour éloigner les prédateurs, comme les loups, les chiens errants, etc., tout ce qui pourrait agresser le troupeau. Il frappe aussi souvent les buissons pour éloigner les serpents. On connaît l'histoire de David, qui s'est certainement servi de son bâton pour attaquer le lion et l'ours, qui ont tenté de nuire à son troupeau. En application pour nous, lors de la tentation au désert, notre Seigneur s'est servi du bâton de Dieu, sa parole, pour éloigner Satan. Il est écrit, c'est sur cette même parole que nous pouvons compter pour combattre Satan. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu dans Éphésiens 6, 17. La parole de Dieu est notre refuge dans ce monde corrompu. Elle éclaire notre chemin. Nous voyons donc que le bâton de berger est un ustensile indispensable au berger. Il y a quatre applications, on pourra en avoir certainement d'autres que je ne connais pas, n'est-ce pas ? Mais ce bâton, il a été, on va dire, modelé à l'image du berger pour qu'il soit efficace au maximum, comme la parole de Dieu est le reflet et l'empreinte de notre Seigneur. Alors on a parlé du bâton, et je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très étonné qu'il y ait deux bâtons. Effectivement, on va s'apesantir maintenant sur la houlette, qui est le second bâton du berger. La seule personne à utiliser une houlette est le berger. Dans aucune autre, il n'y a de houlette. Elle n'est employée que dans l'élevage des moutons. Elle ne conviendrait d'ailleurs ni à l'élevage des vaches, ni à celle des chevaux, ni même à celle des porcs. Elle est dessinée et adaptée spécialement aux besoins des moutons. Alors que le bâton sous-entend autorité et puissance, discipline et défense dans le danger, la houlette n'est symbole que de patience, de bonté et de douceur. C'est une belle image que la houlette. Le bâton aussi, mais il est beaucoup plus, on va dire, agressif, on va dire. La houlette, il n'y a aucune agressivité dans la houlette, en tout cas dans l'image qu'elle représente. C'est une longue baguette se terminant en forme de boucle, donc. Et, ou de crochet, à son extrémité. Et comme le bâton, elle est choisie avec soin par le berger. Elle est taillée et poncée pour sa meilleure utilisation. comme le bâton, la houlette, joue plusieurs rôles essentiels, on va dire. Trois, en tout cas, à mon sens. Le premier rôle est de garder les brebis rassemblées tout près les unes des autres. Alors vous allez me dire, il y a besoin d'une houlette pour ça ? Pour aller, soit avec les chiens, ou pour que le troupeau n'aille pas à droite et à gauche. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans le troupeau, les nourrissons, les nouveau-nés, seraient rejetés par la mère si le berger les touchait et transmettait son odeur. Comme dans beaucoup d'espèces animales, la mère ne supporte pas une autre odeur sur ses enfants. Et elle va même jusqu'à les rejeter, si par exemple on touche son bébé. Ainsi, avec sa houlette, sans toucher directement l'agneau, le berger va pouvoir le ramener doucement à sa mère. C'est important. Et quelle belle image aussi pour cette houlette, le rassembler, ce troupeau, image d'unité de l'Église. Nous sommes sous la houlette du Seigneur et c'est lui qui crée l'unité en nous. Il nous est juste demandé de conserver l'unité de l'esprit, pas de la créer, souvenez-vous. On est incapable de créer quelque unité que ce soit, puisque nous sommes des pécheurs et nous n'avons aucun moyen en nous de créer de l'unité. Mais c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui, dans notre Église, crée l'unité pour que nous soyons soudés les uns les autres par l'Esprit. Le berger se sert aussi de sa houlette pour atteindre et toucher un mouton individuellement. Ah, ça devient intéressant. Afin de l'amener à lui pour l'examiner personnellement. C'est particulièrement utile pour les brebis timides et peureuses qui cherchent à éviter tout contact avec le berger. Nous avons vu précédemment que le bâton représentait la parole de Dieu. Effectivement, la houlette représente... Est-ce qu'il y a des bons élèves ? La patience, mais elle représente l'esprit de Dieu, la houlette. La houlette représente l'esprit de Dieu. Et dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit nous rassemble les uns avec les autres dans une communion fraternelle chaleureuse. C'est lui aussi qui nous amène à Christ, qui nous touche et qui touche notre cœur et nous enseigne. Dans Jean 14, 26, nous pouvons lire « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il y a tellement d'applications possibles. Enfin, la houlette est utilisée par le berger pour guider les brebis. Quand le berger doit faire passer son troupeau par un chemin nouveau ou une voie dangereuse, justement en cheminement par exemple vers les hauts pâturages, on a dit qu'il y avait des vallées escarpées et des chemins plus ou moins dangereux, eh bien la houlette va être très utile à ce moment-là. Il se sert de sa houlette pour guider ses brebis avec douceur, pour ne pas les effrayer. Ce n'est pas le moment de les taper pour qu'elles partent dans tous les sens et se jettent dans un précipice. Elles en seraient capables. Puisque, n'oubliez pas, la brebis est très stupide. D'accord ? Donc elle ne saura pas déterminer où est le danger toute seule. Et le berger, par sa houlette, doucement, va les ramener dans le bon chemin. Le berger ne se servira jamais de sa houlette pour frapper un animal sous sa garde. Jamais. Il utilisera plutôt le bâton dans ce cas-là. Vous voyez, les deux utilités complètement différentes. Jean 16, 13 nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide doucement, sans contrainte, dans la vérité et dans la parole de Dieu. Jamais l'Esprit de Dieu ne va nous forcer à le suivre ou à suivre ses préceptes. Il va nous demander de le faire. Nous ne sommes pas forcés de nous convertir, nous ne sommes pas forcés de suivre le Seigneur, mais c'est très recommandé. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas de contrainte, mais le Seigneur va nous expliquer calmement que c'est la meilleure chose que nous puissions faire par sa houlette, c'est-à-dire son esprit. Quel profond contentement et quelle sécurité de savoir que l'on est sous la garde de notre berger, que l'on est l'objet de son affection, puisque la houlette donne vraiment l'image de l'affection que le Seigneur a pour nous, une affection profonde. Évidemment, on a vu que le berger avait deux bâtons, l'un qu'il va utiliser d'une manière, on va dire, plus brusque certaines fois, d'une manière disciplinaire, ou pour nous protéger si on est agressé, et l'autre, la houlette, qu'il va utiliser de manière douce pour nous diriger dans sa parole, pour nous diriger dans sa vérité, sans nous brusquer. Sinon, on aurait peur. Et le Seigneur ne veut pas que nous ayons peur. Non, le bâton, c'est la parole de Dieu, la houlette, c'est l'Esprit de Dieu. Et avec ces deux ustensiles, le Seigneur va nous mener vers les hauts pâturages. Waouh ! Ainsi donc, mes frères et sœurs, l'Esprit utilise son bâton et sa houlette pour mener son troupeau. Le bâton, c'est un gage de puissance et d'autorité, de discipline. C'est un bâton que le Seigneur va utiliser pour un examen personnel, pour nous protéger. Et la houlette est un signe d'unité, de croissance personnelle. La houlette est un guide, c'est le Saint-Esprit. Puissions-nous écouter sa parole qui nous parle et nous dirige, et puissions-nous être aussi attentifs à son esprit qui nous conduit vers notre Maître, qui est le divin berger. Alors l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous pensez que quand vous traversez l'ombre de la mort, vous ne craignez rien ? Car il est avec vous. Est-ce que vous êtes certain que quand vous recevez un coup de bâton du Seigneur, c'est pour votre bien? Et est-ce que l'Esprit de Dieu vous dirige dans toute la vérité? C'est là l'objet de notre foi. C'est pour ça que nous aimons le Seigneur. C'est parce qu'il est un divin équilibre entre la discipline, entre l'amour, parce que le Seigneur veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, est-ce que nous sommes réellement sur le bon chemin, celui des hauts pâturages ? Est-ce que nous ressemblons de plus en plus à notre Seigneur et Maître Jésus-Christ ? Est-ce que nous nous laissons faire par le Seigneur ? N'oublions pas que nous sommes des brebis, certainement un peu têtues, peut-être un peu moins qu'au départ, et que le Seigneur veut nous faire croître de plus en plus. Tout cela pour notre bien, parce que le Seigneur nous aime. Alors laissons-nous faire. Laissons-nous faire par le divin berger. Et nous aurons de verts pâturages. Nous aurons de l'eau claire et limpide à laquelle nous pourrons nous désaltérer. Parce que la parole de Dieu nous désaltère. Elle nous nourrit. C'est une lampe à nos pieds, c'est une boussole sur notre sentier. Sans elle, nous ne sommes rien, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et sans Jésus, nous ne sommes rien. Nous ne voyons rien, nous ne sentons rien. Alors que depuis que nous le connaissons, nous sommes une nouvelle création. Et c'est pour ça que nous voulons suivre notre berger. C'est parce qu'on est une nouvelle créature. Sinon, on ne pourrait pas. Les gens du dehors ne connaissent pas le berger parce qu'ils ne sont pas des nouvelles créatures. Ils ne sont pas rentrés sous l'autorité du divin berger. Ils ne connaissent pas sa houlette, ils ne connaissent pas son bâton, et ils ne le supporteraient même pas, justement, parce qu'ils ne connaissent pas le berger. Mais c'est vrai que le berger nous connaît par notre propre nom, parce que nous sommes rentrés sous son autorité, nous avons confessé son nom. Et maintenant, il nous connaît par notre nom, il connaît le nombre de nos cheveux, il sait combien il y a de brebis dans sa bergerie. Amen. Alors, prions.